France Musique.
Bonjour. Quel est le point commun entre Jean Sibelius Manuel de Falla Paul Dukas Charles Ives. Edward Elgar. Et Edgar Varèse. C'est le silence. Panne d'inspiration, arrêt d'écriture, renoncement provisoire ou définitif. Tous ces compositeurs ont été confrontés au silence. Succès, maladie, interdit imposé par la société. Chaque émission abordera une facette qui pousse certains musiciens à renoncer et à se taire. Aujourd'hui, l'étrange malédiction de l'année 1927. Bienvenue dans Silencio.
Questo punto Anna, io pensavo nella mezza sacca casura se capo messa, tutto cada anno la sa, la magia sus puhu.
La voix que vous venez d'entendre est celle de Jean Sibelius pour son unique interview enregistrée en 1948. Dans cet extrait. Il dit avoir composé la majorité de ses œuvres dans sa maison d'Ainola, appelé ainsi en hommage à sa femme Aino, et il pense que chacun devrait vivre soit dans une forêt, soit dans une grande ville. Mais ici, dans sa maison, à Ainola, le silence parle. Nous sommes en Finlande, un soir glacial de l'hiver 1943. Cela fait plus de 15 ans que Sibelius a promis une 8e symphonie à un orchestre américain. En 1927, il dit en avoir déjà écrit la moitié, soit deux mouvements de 10 minutes environ. Pourtant, lorsque le chef d'orchestre, Serge Koussevitzky, annonce la création tant attendue de cette 8e symphonie en 1932, Sibelius répond « Je suis très perturbé à ce sujet. S'il vous plaît, n'annoncez pas cette création. Le concert est définitivement annulé. » Dix ans plus tard, nous nous retrouvons dans le salon de Sibelius. Imaginez la scène. Un intérieur agréable, des tableaux sont accrochés au mur et au fond, une cheminée avec un feu qui crépite. Le compositeur est assis sur un fauteuil, sa femme Aino lit à ses côtés. Soudain, Sibelius est pris d'un coup de folie. Il prend toutes ses partitions et rassemble tout dans un panier à linge. C'est l'autodafé de sa 8e symphonie dans un feu de cheminée. Le manuscrit de la 8e symphonie disparaît définitivement. Sibelius mourra en 1957 sans jamais faire paraître une nouvelle œuvre. La 8e symphonie de Sibelius se trouve donc être une des œuvres légendaires de l'histoire de la musique. En fait, tout n'a pas été entièrement perdu. On a retrouvé des esquisses et quelques bouts de partitions qui datent de mai 1933. Sibelius aurait envoyé 23 pages à un copiste 10 ans plus tôt. En 2011, l'orchestre philharmonique d'Helsinki, dirigé par John Storkards, a retrouvé et assemblé 3 extraits de cette œuvre qu'on croyait à jamais disparue. Chers auditeurs et chères auditrices, voici le premier extrait de cette mythique symphonie numéro 8 de Jean Sibelius. Difficile de juger ce qu'on vient d'entendre. Qu'en pensez-vous? Il y a une force un peu dépressive, quelque chose de centrifuge. On dirait un gros mammouth glacé qui n'a plus la force d'avancer. Voici un deuxième extrait de la 8e symphonie de Jean Sibelius, 10 petites secondes. Un troisième et dernier extrait de la symphonie numéro 8 de Sibelius, toujours par l'orchestre philharmonique d'Helsinki, dirigé par John Storgards. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là encore, on dirait que la musique se rétracte sur elle-même, comme si elle était déjà immobile. Comment expliquer le silence de Sibelius? Comment expliquer qu'il qu'il n'ait pas produit de nouvelles œuvres durant les 30 ans qui lui restaient à vivre. On a parlé d'alcoolisme, de maladie de Parkinson. Sibelius n'était pas non plus à l'aise avec son statut de héros national. Il refusait les visiteurs dans sa maison d'Ainola. Le silence de Sibelius s'explique aussi par des raisons personnelles. La composition a toujours été une souffrance pour le Finlandais. Après le coup de folie de 1943, lorsque le compositeur a jeté sa 8e symphonie au feu, sa femme Aino a raconté que l'autodafé avait considérablement amélioré l'humeur de son époux. Écoutez cette œuvre pour orgue de 1931. C'est la toute dernière œuvre de Sibelius. Elle a été composée pour l'enterrement de son ami, le peintre finlandais, Aleksi Galen-Kallela. C'est une musique funèbre. Le dernier souffle de Sibelius, juste avant le silence. raconte aussi que Sibelius a éparpillé les thèmes de sa 8e symphonie dans cette courte pièce pour orgue. Autrefois, les œuvres de Sibelius obéissaient à une logique implacable, chaque élément découlant du précédent. La symphonie numéro 7 est à cet égard son chef-d'œuvre absolu. Impossible de dissocier quoi que ce soit, sans quoi tout s'écroule. Alors le secret de cette symphonie numéro 8 se trouve peut-être dans cette musique grave et déjà immobile, ici interprétée par l'organiste Hans Ola Eriksson.
Quatrième son, c'est la même chose. Le cinquième qui est le dernier. And now, tous les sons ensemble, s'il vous plaît.
Vous écoutez Silencio sur France Musique. Cette musique très impressionnante, c'est le début de l'Atlantide de Manuel de Falla. Notre deuxième compositeur silencieux, qui s'est acharné, tenez-vous bien, durant 19 ans sur cette grande cantate pour chœur, soliste et orchestre. Vous aurez aussi peut-être reconnu juste avant la voix délicieuse de François Truffaut dans le film « Rencontre du troisième type » de Steven Spielberg. En 1977, Steven Spielberg lance un défi insensé au compositeur John Williams. Vous vous rappelez de la scène finale, celle de la rencontre avec les extraterrestres autour d'un motif musical de 5 notes. Williams demande à un mathématicien le nombre de combinaisons possibles entre ces 5 notes. Et ce dernier répond qu'il existe, accrochez-vous bien, près de 134 000 combinaisons. Mais le résultat final, choisi par Williams, est inoubliable. C'est cette infinité de possibles sur la page blanche qui a tant fait souffrir Manuel de Falla durant les 19 dernières années de sa vie. Le vertige d'une page blanche, noire de possibilités. Nous sommes de retour en 1927, en Espagne. De Falla découvre un texte catalan qui correspond à la grande œuvre qu'il a toujours voulu écrire. Le début de l'Atlantide que nous avons entendu n'est qu'une partie de plaisir à composer. Tout se passe bien, lorsque soudain, De Falla apprend que Darius Milhaud et Paul Claudel projettent une œuvre presque identique sur Christophe Colomb. Et dès lors, tout se détraque. De Falla n'arrive plus à composer. Pourquoi ? C'est le thème de notre émission. A-t-il eu peur d'être dépassé par la jeune génération ? Est-ce en raison de la guerre civile, de la mort de Garcia Lorca qu'il n'a pas pu sauver, puis de son exil en Argentine ? Est-ce parce que comme Sibelius, il refusait son statut de héros national ? Ou bien parce que l'Atlantide était une œuvre trop vaste pour lui, alors que son style est sec et précis. Écoutez ce passage du sublime concerto pour clavecin. La musique se tient sur le point d'incandescence, sur la crête du silence. Comment réussir à maintenir une telle intensité, une telle passion ? Durant 19 ans, rendez-vous compte, De Falla travaille et retravaille son Atlantide. Il fait et refait les mêmes scènes. Il rature, ajoute et enlève, jusqu'à ce jour de novembre 1946, où on le retrouve mort en travers de son lit. La veille, il travaillait encore une scène de l'Atlantide, l'agonie et la mort de sa reine d'Espagne, la reine Pirène. Ce tout dernier passage, ici interprété par la grande Teresa Berganza, se termine d'ailleurs, et c'est un peu troublant, par le mot « expiro ». Achever l'Atlantide pour le compositeur, c'était comme mourir. Voici donc la musique sur laquelle travaillait Manuel de Falla durant ses derniers instants. Vous écoutez Silencio sur France Musique. Teresa Berganza chantait l'air de Pirène, de l'Atlantide de Manuel de Falla, l'Orchestre National des Jeunes d'Espagne, placé sous la direction d'Edmond Colomer. Chers auditeurs et chères auditrices, vous aurez sans doute remarqué un point commun entre nos deux premiers compositeurs silencieux. Ils s'arrêtent tous les deux au milieu des années 1920. Notre troisième silencieux, c'est Paul Dukas, qui ne publie quasiment rien de 1912 jusqu'à sa mort en 1935. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est grâce à Dukas qu'on a pu retrouver le millier de pages d'esquisses de l'Atlantide, qui seront arrangées plus tard par l'élève de Falla, Ernesto Halffter. Le compositeur espagnol était horrifié en apprenant que Dukas avait brûlé lui-même tous ses manuscrits quelques jours avant sa mort. Thank you. Quelle est donc cette étrange malédiction qui touche les compositeurs durant les années 20? Il arrivera la même chose après 1945. C'est bien sûr la faute à la Première Guerre mondiale, au cataclysme de la Grande Guerre. On a dit adieu au Paris de la Belle Époque, et la musique est entrée dans le jazz, les années folles et le néoclassicisme. Alors il est sûr que quand on écoute le début du concerto pour deux pianos de Francis Poulenc, part avec L'Apéry, la dernière œuvre symphonique de Duca. On se situe dans un monde symboliste, wagnérien d'avant-guerre. Et très critique envers lui-même, Duca savait qu'il appartenait à une époque révolue. Compositeur silencieux n'est pas forcément condamné à être malheureux, à être dans la rancune et l'aigreur du « c'était mieux avant ». Figurez-vous qu'il peut même être heureux. Et le silence s'avérait une bénédiction. Est-ce que vous reconnaissez cette musique? C'est Edward Elgar. Vous l'imaginez avec ses moustaches très victoriennes? Eh bien, face au silence, car le compositeur britannique s'arrête de composer en 1919, quasiment jusqu'à sa mort en 1934, il choisit une solution moins douloureuse, moins triste que Paul Duca. C'est la paresse. On écoute encore un peu la célèbre marche de Pomp and Circumstances par le BBC Symphony Orchestra dirigé par Leonard Bernstein. Et ensuite, le violoniste Yehudi Menuhin racontera une anecdote savoureuse sur Elgar. Quand j'arrive à Londres deux jours avant l'enregistrement, en été 1932, je rencontre Elgar. Je me disais, mon Dieu, je ne vais pas réussir à jouer correctement le concerto. Je commence devant Elgar, et avant que je commence le deuxième thème, il m'arrête. Et il me dit, ce sera merveilleux, je ne suis pas du tout inquiet, c'est une très belle journée, et maintenant, allons aux courses de chevaux. Elgar savait sa musique passer de mode, mais il a très tôt compris l'importance du disque. Comme Menuhin le raconte, dès que les répétitions étaient finies, Elgar filait à l'hippodrome pour parier sur des courses de jockey. D'ailleurs, cela pose la question. Un compositeur peut-il prendre sa retraite? Un peu comme Rimbaud en poésie, peut-il abandonner la musique et décider de faire autre chose? À plus de 50 ans, Elgar profite de sa retraite. Il soutient chaque dimanche les Wanderers de Wolverhampton, le club de foot de sa ville natale. Et au fond de son jardin, il s'est bâti un petit laboratoire où il fait des expériences de chimie. Sa fille dit de lui « Mon père s'adonne à des entreprises parfaitement inutiles et complètement non rémunératrice. » Dans notre silencio d'aujourd'hui, il nous reste encore deux silencieux de l'entre-deux-guerres à aborder. L'un regarde vers le passé, l'autre vers l'avenir. Le premier, c'est l'Américain Charles Ives. Ives, c'est l'exemple du compositeur du dimanche, comme il existe des peintres du dimanche. Le jour, il est assureur et même excellent. Et en soirée, et durant les week-ends, il se consacre à la composition. C'est peut-être une mystification, mais sa femme relate cette scène. Nous sommes de retour en 1927, en Nouvelle-Angleterre. Charles Ives rentre de sa promenade matinale. Tout est calme, les arbres sont en fleurs. Lorsque soudain Ives rentre en larmes, il affirme « Nothing sounds right », plus rien ne sonne. Il passera ensuite sa vie à réécrire et corriger ses œuvres du passé. Notre tout dernier silencieux des années 30, c'est le contraire. Il reste silencieux car il est trop en avant sur son temps. La musique dont il rêve dans les années 30 n'existe pas encore. C'est Edgar Varèse. Voici ce que le compositeur déclare à Georges Charbonnier au sujet de l'opéra traditionnel en décembre 1954.
Non, tout ça c'est comme alors le thème et le second thème et les développements et les questions de tonalité, c'est fini tout ça.
Donc une autre logique, vous
complètement, paraît... une autre forme de drame, une chose différente. Le comportement doit être différent aujourd'hui. Déjà, la science a déjà dépassé l'homme. L'homme ne s'en rend même pas compte. Un homme qui vole en avion, il voyage plus vite avec son derrière qu'avec son cerveau.
Varèse rêve d'une musique spatialisée, moderne, électronique. Mais durant 10 ans, il est totalement silencieux. Il marche dans les déserts du Nouveau-Mexique, envisage plusieurs fois le suicide, mais la Seconde Guerre mondiale va le sauver in extremis. L'armée imagine de nouvelles machines, c'est l'avènement de la bande magnétique. Et lorsque Varèse réapparaît un soir de décembre 1954, son œuvre fait scandale. Nous sommes le 2 décembre 1954 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Dans la salle, il y a André Malraux, Henri Michaud, Pierre Boulez et Yanis Xenakis. Tous viennent entendre la nouvelle œuvre de Varèse qui crée désert après 20 ans de silence. Varèse a enregistré des bruits d'usine à Philadelphie. Il appelle cela des interpolations. La création commence dans le calme. Mais lors de la première interpolation sur bande magnétique, on entend des gloussements, de timides vagues de réprobation. Mais bientôt, tout lâche brusquement. La salle est partagée en deux, entre ceux qui huent et ceux qui applaudissent. Varèse est sorti de sa crise des années 1930 et son silence fait beaucoup de bruit. Pour la petite histoire, l'un des spectateurs mécontents a, sans le savoir, une idée de génie. Il hurle durant les toutes dernières secondes de l'œuvre, c'est trop lent. Voici la création de Désert de Varèse en 1954. L'Orchestre national de France est dirigé par Hermann Scherchen.
Thank you. Thank you.
C'est ainsi que s'achève le premier épisode de Silencio. Réalisation Claire Lagarde. Collaboration Pauline Boisaubert. Mixage et prise de son Bernard Laniel. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au silence des compositrices. Bon dimanche sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.